Chut, on écoute la télé avec les tourtes Limousine. Spécialité élaborée en Limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confit de canard, cèpe ou gésier en vente partout dans vos grandes surfaces.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence. C'est l'heure de Chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Open FM, votre radio des monts en Bazac avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 17h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chute, on écoute la télé sur Open FM.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au programme de ce nouveau numéro inédit de Chute, on écoute la télé. Dans un instant, nous allons consacrer une large partie de cette émission au film Des gens bien, qui sort un petit peu partout dans les salles de notre région, dans tous les CGR, ce mercredi 15 mai. Un film à ne pas rater, bien évidemment. Et on en parlera largement avec les deux co-réalisateurs, Bruno Lopez et Manuel Vielli, ainsi que les deux comédiennes principales, Anne Lenen et Paloma Lopez. Et nous aurons le plaisir de recevoir également Muriel Robin, qui est la marraine du film, qui sera également avec nous. Et puis nous parlerons de Candice Renoir, avec Yelem Japin et Pascal Lamani, qui viendront nous parler évidemment du final de la série. Nous aurons le plaisir de recevoir Isabelle Gélinas et Arthur Mazé, qui seront à l'affiche du retour de la série Crime Parfait. Ça sera demain sur France 3. Et puis on continuera également aussi avec Fabrice Renaud à parler de la série Clem, qui fait son grand retour ce soir sur TF1. Et enfin le crossover de TF1 entre Section de Recherche Alice Nevers, qui sera à l'honneur puisque nous recevons Gary Mieleanu, qui joue dans Alice Nevers et qui nous parlera de ce crossover exceptionnel qui nous attend jeudi. Mais tout de suite, on démarre tout de suite comme d'habitude avec les audiences de la semaine dernière.
Les top et flops d'audience.
Et on démarre comme d'habitude avec les audiences de lundi dernier. Esprit Criminel qui a totalisé de 3 283 000 téléspectateurs et 15,7% de part de marché. E égale M6 a totalisé un très beau score. Plus de 3 millions de téléspectateurs pour 13,9% de part de marché. La série Obsession sur France 2 à la traîne avec 2 009 000 téléspectateurs et Thalassa avec 1 540 000 téléspectateurs continue de perdre avec 7,5% de part de marché seulement. Mardi, le capitaine Marlowe sur France 3 s'envole toujours avec des rediffusions à 5 402 000 téléspectateurs, 24,4% de part de marché. Camping Paradis au plus bas sur TF1, c'était une rediff avec 11,3% de part de marché, 2 588 000 téléspectateurs. Le test qui sauve sur France 2 fait un score dans une petite moyenne, 11,7% et 2 499 000. Et par contre, c'est la débandade pour M6 et son Together Tous avec moi, 5,1% de part de marché, 1 089 000 téléspectateurs seulement. Du coup, l'émission est déprogrammée en urgence et sera remplacée demain donc par Recherche Appartement et Maison et mardi d'après par Maison à Vendre.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Les coups de cœur ciné cette semaine consacrés au film Des gens bien, le film qui a eu une première sortie le 3 avril dernier, bien a connu déjà pas mal de spectateurs en salle. Et bien là, c'est une deuxième sortie qui s'affiche mercredi justement. Et là, ça va être une deuxième possibilité d'aller voir pour vous, puisqu'il va être programmé dans de nombreux cinémas de notre région Nouvelle-Aquitaine. Et on a la chance d'avoir toute l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer par les filles, hein. Anne Lenen, bonjour Anne.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Paloma Lopez qui est avec nous. Bonjour Paloma.
Bonjour.
La jeune héroïne du film. Alors, on a même le producteur, Christophe Hermé, qui est là. Bonjour Christophe.
Salut Alain, comment vas-tu depuis la dernière fois?
Ça va très très bien, oui. Bon, j'ai eu l'occasion de vous emmener déjà en tournée avec moi, fin mars. Et donc, on a nos deux réalisateurs, Bruno Lopez et Manuel Vielli, qui sont avec nous.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, c'est Emmanuel Vielli, bonjour.
Merci à tous les deux d'être là. Et la marraine du film qui est avec nous, Muriel Robin. Bonjour Muriel.
Bonjour Alain, content de vous voir.
Eh ben, moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver tous avec nous. On a fait une petite tournée ensemble sur les Charentes. Et là maintenant, le film va continuer un petit peu sa carrière au cinéma. Et alors, la première chose que j'ai envie de demander au producteur, Christophe, qui vient, parce que je sais qu'il aime bien parler en plus.
Oui, alors.
Explique-moi, Christophe, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette histoire et qu'est-ce qui t'a fait dire « oui, je l'ai produit, eux ».
Eh ben écoute, comme on s'était dit, c'est vraiment la rencontre, une rencontre humaine à la base. Bien évidemment, le scénario, déjà, il parle d'un sujet qui est quand même assez grave. Mais ce qui était génial, c'est que, voilà, c'était la partie humaine qui ressortait au travers de tout ça, puisque Bruno, quand il l'a écrit, quand il a souhaité le réaliser, le tourner, il y avait la pudeur qu'il fallait, tout était en suggestion. Et donc ça méritait quand même, c'était un sujet qui n'avait jamais été traité au cinéma, et c'était un sujet à mon avis qui méritait d'être filmé, d'être traité, d'être montré à un large public. On pourrait dire que c'est une comédie dramatique. Alors peut-être pas comédie au sens propre du terme, mais en même temps, je veux dire, ces personnages qui sont totalement marqués, rien n'est dans le calcul, ce sont des gens spontanés, et ça plaît parce que c'est l'aspect humain qui ressort, et ça a été une sacrée aventure. Donc voilà, et on en ressort totalement satisfait, totalement heureux, parce que c'est ce que j'ai coutume de dire, si on en est arrivé là où on en est arrivé, c'est parce qu'on a rencontré sur notre parcours des gens bien qui nous ont portés, qui nous ont motivés, qui nous ont porté jusqu'au bout, à commencer, on a une marraine quand même de choix, une marraine de cœur, quelqu'un qui est connu pour ses positions humaines. Donc ça nous a permis d'être accrédité par rapport aux gens. Et puis c'était une forme de repère. Et on se devait de tous avancer, et on avait tous la même énergie, la même envie. Et voilà, et je te dis, aujourd'hui, notre plus grand bonheur, c'est, je te dis, d'avoir fait ce parcours sur un peu plus de 3 ans, tout au long de ces étapes, puisqu'on l'a fait sous forme un petit peu artisanale. Voilà, la rencontre des gens bien, et aujourd'hui, on savoure, voilà.
Alors on va en parler justement de ce parcours du combattant pour sortir un film, et Anne, justement Bruno, Emmanuel sont bien placés pour nous en parler. L'histoire de départ est très belle, c'est l'histoire de deux bras cassés, avec un braquage qui tourne pas très bien, et puis d'un seul coup ils prennent une voiture et puis il y a une petite fille dedans, et puis jusqu'au moment où ils s'aperçoivent avec le personnage de Rose, que cette petite fille est couverte de bleu et est battue par ses parents. Alors là, comment faire? C'est un cas de conscience, et quand on est justement des gens bien, comment fait-on pour la rendre soit séparée parents et savoir ce qui va lui arriver, ou ne pas la rendre tout simplement quand on sait qu'en plus elle se trouve bien avec eux. Voilà comment on peut résumer cette belle histoire, Anne.
C'est exactement ça. C'est tout le dilemme, c'est qu'ils veulent plus la rendre. Donc comment vont-ils faire, sachant qu'ils ont la police qui les poursuit, et il va falloir trouver une manière de prévenir les autorités sans se faire attraper. Enfin, c'est tout le film. Je vais pas tout dévoiler.
Il y a des belles choses qui se passent tout au long du film. Muriel, qu'est-ce qui t'a séduit au premier abord? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui, je veux soutenir ce film, je veux être la marraine de ce film?
Parce que un sujet de fond, vraiment, effectivement, l'enfance maltraitée, et puis aussi un road movie du cinéma, des images, une musique. Enfin voilà, on va au cinéma aussi, il n'y a pas de légèreté, mais le sujet est contourné, le sujet du film. On s'appuie, c'est cette enfance maltraitée qui va amener ce road movie avec deux mecs, une gamine. On va les découvrir, on va voir comment ils évoluent avec cet enfant. Ils ont comme pas un bébé, mais pas loin quand même, une gamine dans les pattes, dans les bras, et peut-être un moment dans le cœur. Donc c'est l'évolution de ces trois personnages ensemble, qui vont grandir ensemble. Et puis on aime bien au cinéma quand les personnages partent d'un point A pour arriver à un point B. C'est ce qui va se passer, c'est que ça transforme. Ce que ça ne transforme pas chez eux, c'est que ce sont des mecs bien, des voleurs, oui. Mais est-ce qu'on peut pas être un homme d'entreprise respecté et être une ordure, et un voleur, voler une pomme à l'étal et être un mec bien? Bien sûr que si. Donc ça éclaire un peu autrement les clichés. Donc j'ai aimé ce film, quoi. Voilà, c'était être marraine, c'est parce que c'est un vrai engagement d'être marraine. Je suis là, on est venu, on revient pour parler du film, tout ça. Donc on peut pas s'engager comme ça. Moi j'ai mon métier, j'ai des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Mais quand ça mérite, je pense que c'est un devoir si on peut apporter quelque chose à un film.
Paloma, premier rôle au cinéma, tu es le premier rôle. Moi j'appelle ça, voilà, c'est l'héroïne du film. Tu avais quel âge quand tu as tourné? Une dizaine d'années?
Oui, j'avais entre 10 et 11 ans, si mes souvenirs sont bons.
Alors, quels sont tes meilleurs souvenirs, justement, de ce tournage? Et surtout de ton premier jour, où t'as entendu « Action » pour la première fois?
Alors, pour les bons souvenirs, je dirais qu'ils sont tous bons. Parce que vraiment, c'était une expérience super. Il n'y a pas un jour où j'ai pas adoré. Et après, la première fois, c'était assez impressionnant. On peut s'imaginer des tournages comme à Hollywood. Quand on imagine, c'est pas du tout comme ça, mais c'est encore plus impressionnant que dans les films. C'est impressionnant et... quand j'ai entendu Action,
ça y est, j'y suis, quoi.
Ouais, c'est ça, ça y est, j'y suis. Je suis heureuse d'être là et je suis contente.
Ce que Paloma ne peut pas dire, c'est que, de toute façon, on est actrice ou on l'est pas. On ne devient pas actrice, on ne devient pas drôle, on l'est ou on l'est pas. Elle l'est. Donc, et surtout, c'est les enfants, parce que le principe pour un acteur ou une actrice, c'est de lâcher prise. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche? C'est à ne plus jouer, juste à être, ce que font des grands génies comme Depardieu et quelque peu d'autres. Mais les enfants ont ça, ce génie. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas. Donc, on est dans une émotion totale, tout le temps, une spontanéité. La beauté de ça aussi, dont on ne se lassera jamais au cinéma, sur une enfant qu'on a envie de suivre, qui nous touche. Et tout est vrai, tout le temps. Et les acteurs ont un niveau de jeu, de non-jeu, je dirais, qui fait qu'on rentre dans l'histoire. Et en plus, comme ils ne sont pas connus, il faut bien qu'il y ait un avantage. Mais ça a l'avantage qu'on n'est pas gêné en se disant, oh, tiens, je l'ai déjà vu dans un rôle comme ça, etc. On les connaît pas. Donc, ils sont les personnages, ils, elles, donc on rentre dans l'histoire.
En tout cas, moi, tu m'as bluffé. C'est vrai que pour un premier rôle, j'ai dit, elle est merveilleuse à l'écran. Et alors là, je vais m'adresser un peu au papa en même temps, comédien principal, le papa de Paloma, plus co-scénariste. Est-ce que tu as réussi à dormir un petit peu aussi, Bruno? Scénariste complet. Co-réalisateur, voilà, pardon.
Non, c'est pas grave. Pendant le tournage, on dormait peu. Mais après, c'était comme pour Paloma, c'était super pour nous tous, tout ça. Mais c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de travail. Surtout que on avait une équipe plutôt réduite par rapport à des gros tournages. Donc, on faisait beaucoup de postes, on occupait beaucoup de postes en même temps sur le tournage. Donc, forcément, oui, c'était fatigant, mais c'était jouissif quand même.
Emmanuel, te retrouver devant et derrière la caméra.
On a fait la totale, c'est-à-dire que on a fait un premier film à deux et en étant acteur, on peut tout faire maintenant, je crois, hein, parce qu'on a une expérience pour ça, on a vraiment souffert et puis on n'est pas les seuls à avoir souffert, à toute l'équipe qui était avec nous, parce que voilà, on avait des gens qui travaillaient beaucoup, qui étaient dévoués aussi au film et on les remercie parce que un film ça se fait pas tout seul. C'était un moment magique, c'était intense et c'est un moment de vie comme on en a un peu, je pense.
Alors, on va y revenir, on va écouter tout de suite la bande-annonce, puisque des gens bien, eh bien, vous pourrez le retrouver dès mercredi dans les salles de cinéma, dans les bonnes salles de cinéma de votre région. Nouvelle-Aquitaine, écoutez.
L'air d'une voiture bélier, les deux braqueurs ont enfoncé la devanture de la banque.
Qu'est-ce qu'on a foutu, Raph ?
On a fait ce qu'il fallait.
Avant de s'emparer de 80 000 euros, après avoir mis le feu à la voiture qui a servi à leur fuite, les deux malfaiteurs ont disparu dans la nature en détenant une otage, une jeune enfant de 8 ans.
Je demanderai à ma sœur de la rapporter devant le commissariat. Ni vu ni connu.
On a un problème.
Qui t'a fait ça?
Je rends pas cette petite à ses parents.
Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'adoptes?
Je t'emmerde. Toi, tu vas la rendre, sachant qu'elle va se faire tabasser par ses parents?
T'es trop petite pour te débrouiller toute seule.
Je veux plus retourner chez mes parents.
Si on va en Espagne, que vous savez pas quoi faire, moi je sais.
Ah oui, quoi?
On raccompagne Paco chez lui.
Paco? Bah oui, Paco qu'on voit pas là.
Dónde estás, Paco?
Il y a une gamine qui est malade dans sa tête, elle parle à quelqu'un qui n'existe pas, toi tu l'écoutes. Tu dis oui, on va traverser l'Espagne, on va ramener Casper pour qu'il retrouve sa petite sirène au fond de l'eau. Non mais.
Te quiero, Paco!
Te quiero, Paco!
Allez, on va se retrouver dans un instant pour notre spécial des gens bien. Toute l'équipe est avec nous, hein. Anne Lenen, Muriel Robin, Paloma Lopez, Bruno Lopez est avec nous, Christophe Hermé, le producteur, Emmanuel Vielli. Vous restez là tous?
Oh là là, on n'est pas prêts.
On est très très bien à La Rochelle.
Je couche ici.
Bien, eh bien, on se retrouve dans 3 minutes. Alors ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
Radio Open FM, votre radio.
Je ne peux plus. Passer de toi, je te vois partout, nulle part à la fois. Mon corps se tend quand je pense à toi. Tu sais, vois-tu le mal que tu me fais? Et je me fous de ce qu'on dit de moi. Si je suis la reine, je te veux pour roi. Mon âme sœur, je te tends les bras. C'est vrai, malgré le mal que tu
Radio Open FM, bienvenue chez vous.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour pour notre spécial des gens bien. Je vous rappelle, le film ressort au cinéma mercredi dans toutes les bonnes salles de votre région. On va parler un petit peu du parcours du combattant parce que mine de rien, ça c'est assez méconnu du public. Il faut quand même le dire aujourd'hui. Ça a été quand même une souffrance pendant 3 ans pour sortir le film parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Il faut trouver un circuit, une distribution, un financement. Et aujourd'hui, c'est un film qui germe dans vos têtes et en projet depuis combien de temps aujourd'hui, Anne?
3 ans. Ça fait 3 ans.
Quatre avec l'écriture, oui.
Mais il y a 6 mois, c'est vrai qu'on a failli tout abandonner à un moment, puisqu'on ne trouvait pas de distributeur, puisqu'on avait quand même omis, on était un peu naïfs, et c'est vrai qu'on avait omis qu'on avait un casting un petit peu faible, puisqu'on n'est pas connu, et qu'au cinéma, en général, ce sont des gens connus qu'on voit. Donc les distributeurs avaient beau nous dire que le film était vraiment bien, et on avait des retours positifs, mais ils n'avaient pas envie de nous suivre financièrement sur cette aventure. Et voilà, et la solution, avant d'abandonner, on était désespérés, tous les quatre, et on s'est dit, on va le distribuer nous-mêmes, le film. Donc il y a 6 mois, on s'est retrouvés à décrocher notre téléphone et à appeler un petit peu tous les cinémas de France et de Navarre en disant voilà, on a un film à vous proposer et à jouer et à faire les distributeurs. Donc c'était génial parce qu'on a tout fait, on a fait l'affiche, tout, on a tout fait de A à Z. C'est merveilleux, c'est-à-dire qu'on voudrait que tous les films, si on doit en faire d'autres, on voudrait tous les faire comme ça maintenant, tellement finalement ça a été joyeux, épuisant, instructif et humainement, mais c'est une solidarité formidable, voilà, une expérience géniale.
Alors c'est une véritable aventure que ce film, on disait tout à l'heure un petit peu l'histoire de départ. Comment on pourrait définir Rose, dis-moi Anne?
Rose, je pense que c'est, elle est très maternelle, très très maternelle avec tous. Et elle s'inquiète pour ce frère qu'elle aime tellement, qui a dû lui en faire voir depuis qu'ils sont tout petits. Donc elle l'aime, mais en même temps elle veut quand même marquer le coup un peu comme une maman en lui disant voilà, là c'est trop et je veux plus te voir parce que tu vas trop loin. Mais elle pourra pas le faire parce qu'elle l'aime. Et elle est très maternelle avec Paloma. C'est ce que Bruno dans son écriture a voulu faire, le rôle des femmes dans ce film est je crois majeur pour lui. Je pense que c'est vraiment les femmes qui sont un peu entre Paloma et Monique.
Et Monique. Qui est absolument incroyable dans le film, vous verrez.
Extraordinaire.
Très touchante.
Ouais. Et c'est comme un peu si, voilà, il y a ces 3 générations de femmes qui sont là et qui maternent ces deux garçons, tout à leur manière, et qui les engueulent aussi, et qui sont là pour, c'est eux les gamins.
Muriel, avant de poser la même question à Paloma, parce que ce sera peut-être pas la même, quelle est la scène qui t'a le plus touchée, ou le plus marquée en voyant le film la première fois?
Ah, c'est difficile. Enfin, malgré tout, je crois que quand on découvre la situation de la petite, alors là maintenant on est obligé d'en parler parce que c'est de là que part le film. C'est vraiment au tout début du film, donc l'histoire n'est pas cet enfant que ses deux bras cassés découvrent dans le film, mais c'est vrai que ça bouleverse tout de suite et surtout c'est vrai que ça amène à qu'est-ce qu'ils vont faire. Et on revient au sujet, c'est-à-dire la garder, non? C'est un kidnapping et la rendre, c'est affreux. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et c'est, voilà, faut bien voir le film pour avoir la réponse.
Pareil, quand on dirige son enfant, est-ce que ça apporte un véritable plus? Est-ce que tu te serais vu à donner le rôle à quelqu'un d'autre? Ou c'était vraiment pour Paloma que tu l'as écrit, ce film?
Oui, c'était pour Paloma, non. Impensable de le donner à quelqu'un d'autre. Après, pour la difficulté, non, c'est pas dur. C'est même mieux. Mais moi, je suis dans l'esprit un peu famille pour le travail. Et c'est ce qu'on a fondé aussi. Avec Anne, avec Emmanuel, avec Christophe, avec Paloma, avec Muriel, bien sûr.
Comment vous avez co-réalisé tous les deux, Emmanuel? Comment vous êtes répartis les tâches, tous les deux avec Bruno?
Alors, c'est une question qu'on a souvent, mais c'est totalement naturel. Ça se fait naturellement. On ne sait même pas qui dit action, on s'en fout. Voilà, il y en a un qui le dit. Bon, c'est pas très important, c'est plus une question de feeling. Et puis, on laisse faire les acteurs. Et puis moi, le meilleur moment que j'ai vécu, c'est quand on a dirigé Monique Chaumette et on passe derrière Costa Gavras ou Marco Ferreri, et c'est à notre tour. Et je me souviens avoir des frissons à la première réplique, et on se dit mais comment on peut diriger, qu'on va pas diriger Monique Chaumette. Et puis on allait quand même la voir, et elle comprenait en 2 secondes. Et puis voilà, on avait quelques prises, très peu de prises, et puis ça se passait très bien tout de suite, une grande professionnelle, quoi. Mais ça, c'est impressionnant, oui.
Juste avant de se quitter, Muriel, on va revenir aussi sur ce très beau livre, Fragile, où vous vous livrez à cœur ouvert dans ce livre.
Oui, je suis allée dans l'intime, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être universel, donc on ne peut pas y aller d'un orteil, on y va complètement ou pas, donc j'y suis allée complètement, en espérant que mon parcours pourrait éclairer le parcours d'autres, et que si certaines mamans mère lisait ce livre, elle pourrait peut-être un peu aussi s'interroger à savoir si elle pouvait pas faire mieux. Parce que moi, j'avais une maman qui savait pas trop bien faire. Donc, voilà.
Alors, un film qui vous a beaucoup bousculé, c'est Jacqueline Sauvage, évidemment, qui, je crois, marquera certainement votre carrière et qui a marqué énormément de téléspectateurs. 9 millions avec les replays, c'est un succès colossal. Et aujourd'hui, c'est un véritable combat que tu mènes, Muriel, auprès des femmes battues.
Oui, bah oui, ça coule de source, quoi. Je crois pas qu'on choisisse un combat, c'est le combat qui vous choisit. J'ai tourné ce film, c'est pas par hasard aussi, on choisit, enfin, on peut dire non à un sujet. Quand on y va, on prend tout ce qu'il y a avec, et là, l'engagement était dans le kit. Enfin, pour moi, parce que c'est vraiment un sujet qui demande, qui est traité avec une forme d'indécence depuis les différents gouvernements et celui encore d'aujourd'hui. Donc c'était pas mal que, mon Dieu, j'arrive là-dedans et surtout je salue le travail magnifique et formidable de longue haleine dans l'ombre de toutes ces femmes, souvent des femmes qui travaillent pour les associations en France. Il n'y avait pas les associations, ce serait encore plus indécent. Mais elles travaillent avec ce qu'elles peuvent, donc il faut de l'argent, il y a des décisions qui coûtent zéro francs, ce sont juste des ordres à donner de choses qui existent, qui ne sont pas mises en place et il faut absolument que ça bouge et que ça devienne à un moment quelque chose vraiment qu'on prenne à bras le corps. Parce que moi, je vais tout faire pour qu'en fait, ces victimes soient dans le futur incarnées, que ce ne soit plus des chiffres comme ça. Bah, tiens, encore une qui est morte. Bon, comme si c'était, bah, c'est normal. Hein. Bon, les gens se disputent, puis parfois, ça se tourne mal. Non, je voudrais faire qu'elles aient toutes un prénom, parce qu'à un moment, quand on connaîtra Nadia, Aïda, Françoise, Martine, Brigitte, qui, moi, m'écrivent, moi, maintenant, chez ces filles-là, si on les sort pas de la merde et que j'apprends qu'elles sont mortes, je vais très très mal dormir. Mais je vais dire à ceux qui sont responsables, qui n'ont pas fait ce qu'il faut,
vous n'y êtes pas. C'est la non-assistance à personne en danger.
Exactement. Donc, je veux absolument qu'elles soient incarnées. Mon rôle, c'est ça, en fait. C'est que, voilà, c'est qu'on ne parle plus de, ce sont des gens, des vraies personnes. Et c'est votre fille, votre sœur, votre amie, votre collègue de travail. C'est à côté de nous, puisqu'une femme sur 10 est concernée par les violences conjugales. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, on est la moitié en France, hein, donc vous imaginez le chiffre que ça fait. Donc il y a tout à faire. Voilà, moi je suis là pour ça, pour remettre le dossier sur le tapis et dire c'est prioritaire, parce que ça c'est prioritaire, ça aussi. Alors on se pousse des coudes, j'imagine que les dossiers, pousse-toi, je vais mettre mon dossier, mais à un moment celui-là, faut qu'il arrive, parce qu'à un moment ça tombe sur quelqu'un qu'on connaît. Et puis ça va pas. C'est impossible. On peut pas tuer les gens, ce sont des assassinats, parfois des meurtres. Parce que j'ai lu aussi dans les chiffres que j'ai eu que dans 98% des cas, il y a la volonté de donner la mort. On n'est pas dans l'accident. On n'est pas j'ai tapé, mais comme je suis trop fort, oh j'ai pas senti ma force, oh elle est tombée. Non, il y a la volonté de tuer.
La préméditation, on appelle ça, effectivement. Des gens bien, vous pourrez retrouver au cinéma, donc je le disais, mercredi avec Paloma Lopez, Monique Chaumette, Anne Le Nain, Bruno Lopez, Emmanuel Vielli. Voilà, ils seront tous là pour vous faire vivre 1h27 de pur bonheur dans cette histoire que vous pourrez découvrir. Moi je vous la conseille, allez au cinéma un petit peu partout dans votre région, donc profitez-en si c'est près de chez vous. Le livre Fragile de Muriel Robin, il est en vente dans toutes les bonnes librairies, donc voilà, n'hésitez pas à y aller, et voilà, vous découvrirez une autre peut-être Muriel Robin que vous connaissez à travers les écrans. Voilà, merci à tous.
Merci Alain.
Merci Alain. Merci beaucoup.
Merci Alain.
Merci à tous et à très vite. On va se requitter avec un petit extrait, bien évidemment.
N'aie pas peur, Paloma. Je m'appelle Michel. Je suis venu pour te sortir de là.
On est piégé, c'est des flics.
Tu as oublié Paco? Il faut que tu le ramènes chez lui.
C'est la promesse.
Une promesse, c'est une promesse.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va commencer à dérouler nos coups de cœur télé dans cette émission de ce soir avec évidemment le grand retour de Clem pour une 9e saison inédite. Et préparez vos mouchoirs, je peux vous dire que ce soir, eh bien, c'est la saison de tous les bouleversements pour Clem et toute sa famille. Et on va en parler justement avec son producteur de tous ces bouleversements, avec Fabrice Renaud, un des producteurs de la série qui est avec nous. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Fabrice, première question, évidemment, il y avait un véritable besoin de changement, de renouvellement. C'est un nouveau souffle pour Clem.
Il n'y avait pas un véritable besoin, il y avait une véritable envie en revanche. Il n'y avait pas de besoin dans le sens où c'était une série qui marchait très bien. qui fait encore en moyenne 5,1 millions de téléspectateurs sur la précédente saison, qui est leader sur toutes les cibles commerciales, très puissante sur les cibles, très puissante sur les 15-25 ans, notamment sur les jeunes, et sur les séries féminines, sur la cible féminine. Donc il n'y avait pas de besoin. En revanche, il y avait une envie de se dire, allez, on arrive en 9e saison, on a envie un peu de bouger les lignes, de changer un peu les choses. On a fait pas mal le tour de certains personnages, et puis on a envie de changer un peu, de s'adapter, de parler, parce que Clem a toujours eu la chance de pouvoir parler de thématiques hyper actuelles, et puis on s'est dit, bon, bah là, il y a peut-être moyen encore de continuer à être moderne et dans l'actualité, mais pour ça, il va falloir changer et bouger un peu les lignes.
Alors, il s'est passé 6 ans entre la dernière saison et celle qui va arriver ce soir pour Clem, qui s'est retrouvé dans le coma après un accident de voiture. Quand vous avez eu cette idée de génie de faire un bond dans le temps, comment l'idée a été accueillie par les comédiens, par Lucie Lucas par exemple en particulier?
Ouais, très bonne. On a dit qu'on voulait un peu bouger les lignes, changer les choses. Les comédiens, notamment Lucie, nous ont dit, bah oui, super, avec plaisir, ça correspond à ce qu'on veut. Maintenant, attention à ce que vous allez proposer, on sera vigilants. Ils ont toujours été très vigilants, les comédiens sur Clem, sur les textes, et on les a toujours fait en collaboration avec eux. Donc c'était un peu un challenge pour nous. Et puis Caroline Franc et Bertrand Marzec, les deux auteurs de cette saison, sont venus nous voir, et c'était marrant parce que ils sont venus avec trois idées, et puis deux idées, on nous a dit il y a ça, on a dit oui, c'est bien et tout. Puis ils nous ont dit, il y a une troisième idée, mais en vrai, on était à vous la dire parce qu'elle est un peu folle, elle fait un peu, mais c'est vrai que c'est celle qui nous amuse le plus et tout, et donc ils nous ont raconté, nous on a dit c'est super, c'est exactement vers ça, on était avec TF1, on a dit c'est vers ça qu'il faut aller, puis on a appelé Lucie, on lui a raconté, et tout de suite elle était hyper enthousiaste parce que Lucie a vu aussi le défi en termes de jeu que ça représente pour elle, et donc c'est une femme de défi, et donc ça lui a beaucoup plu.
Alors, deux partis pris pour cette nouvelle saison, changement de comédienne pour le rôle de Salomé, un changement d'ailleurs assez incroyable de ressemblance, puisqu'on a vraiment l'impression avec Joséphine Berry de retrouver Léa Lopez vieillie de 6 ans finalement, et le départ de Victoria Abril.
Oui, tout à fait. Pour Joséphine, pour Léa Lopez, qu'on aimait beaucoup, ça a été un peu dur parce que donc nous, pour le coup, tout roulait, et puis elle a été prise au théâtre de Mogador, qui est une école très exigeante de comédie musicale, qui prend très peu de personnes, et donc c'était une chance pour elle d'être prise. Mais le gros problème, c'est que en contrepartie, ils demandent un investissement total, ce qui est complètement normal, mais et donc pas de tournage. Donc on a beaucoup discuté avec elle, puis elle avait une vraie opportunité géniale de faire cette école. Donc voilà, on lui a dit, évidemment, c'est normal. Donc voilà, et puis après, pour Victoria, comme on l'a dit, c'était dû au fait qu'on avait fait quand même pas mal le tour du personnage et qu'on commençait un peu à sécher avec elle, avec Victoria, sur l'histoire qu'on pouvait encore raconter. Voilà.
Alors on va retrouver Agustin Galiana, évidemment, hein, le gagnant de Danse avec les Stars, qui fait son retour évidemment dans cette 9e saison. On retrouve Elodie Fontan, hein, que vous avez vu dans Nicky Larson en février dernier, qui cartonne en ce moment au cinéma et un peu partout. On la voit partout en ce moment, Elodie aussi. Donc ça, c'est aussi une vraie belle surprise de voir des gens comme Elodie continuer la série.
Hein. Oui, et puis nous, on est hyper contents qu'elle puisse continuer la série avec nous. Elle a en plus une place très centrale dans cette histoire. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais oui, il se passe dans les choses. Et puis Agustin, qu'on est toujours hyper content de retrouver, et pareil, qui devient d'un coup évidemment beaucoup plus important là, dans la série, qu'on va retrouver beaucoup plus, de plus en plus.
Alors on va découvrir une Clem qui va évidemment se reconstruire, qui va se réveiller après 6 ans de coma. Qu'est-ce que nous réserve d'autres comme surprise en tant que nouveaux comédiens, nouveaux personnages qui vont arriver dans cette 9e saison, Fabrice?
Alors on a Thomas Chomel qui donc joue maintenant Valentin à l'âge de 15 ans. En fait, on a eu une véritable envie de mettre en avant, parce que c'était l'ADN de Clem des premières saisons, c'est qu'il y avait une bande de jeunes dans lequel il y avait effectivement à l'époque Lucie, Elodie, Kevin Elarbi. Donc c'était toute une bande, et puis évidemment Julien, c'était toute une bande de jeunes qu'on suivait. Et puis on s'est dit, Lucie a grandi, le personnage maintenant devient mère de famille. Et donc on trouvait ça très marrant d'avoir une première saison de Lucie, de Clem, maman à 16 ans, et puis aujourd'hui de voir Clem, maman d'un enfant de 16 ans. Comme ça qu'on a fait notre calcul de 6 ans. Et puis donc on a maintenant toute une bande de nouveaux jeunes qui nous ont rejoints. Donc il y a Thomas Chomel qui fait Valentin, donc qui va être son fils, qui a énormément de place. Exactement, on retrouve le même rapport qu'il y avait entre Victoria Abril et Lucie Lucas, entre Caro et Clem. on retrouve le même rapport maintenant entre Clem et Valentin. On retrouve cette problématique de mère-enfant.
Avec des fréquentations pas toujours fréquentables dans cette saison, hein.
Non, avec des fréquentations pas toujours fréquentes, enfin oui, un peu compliqué. Oui, mais bah, je peux pas en trop dire, mais oui, effectivement. Et puis, on ajoute à ça, on a aussi, pour les fans de la série, Victoire, la fille de Michel et Marie-France, qui jusqu'à maintenant était une petite fille, et donc maintenant, pareil, qui a pris 6 ans comme tout le monde, qui a 14 ans, et qui d'un coup fait partie de la bande. On a le meilleur ami de Valentin qui s'appelle Joris, et qui est joué par Gabriel Driss, qui est un ex des Kids United.
Exactement.
Voilà, et qui est super, qui joue vraiment super bien, donc on est très contents. Puis pour finir, on a Ivia, qui sera la petite nouvelle dans la bande, et voilà, avec une petite histoire un peu, une petite histoire d'amour, mais pas que.
On reverra Laurent Gamelon dans cette saison ?
Non, pas dans cette saison. On continue à espérer de pouvoir faire venir Laurent en guest, parce qu'on était hyper contents de l'avoir l'année dernière et qu'on sait que le public l'a très bien accueilli. Ces épisodes, les deux épisodes auxquels il était ont très bien marché, ça a été un vrai plaisir de l'avoir. Donc on garde toujours en tête, mais il y a un point qui est toujours important dans Clem, c'est l'histoire. Voilà, et donc on ne réfléchit pas à l'envers en se disant « on aime beaucoup Laurent, il est génial, il joue super bien, il faut absolument qu'on lui trouve un truc à faire ». C'est plutôt, on laisse les auteurs travailler, et si les auteurs nous disent on a quelque chose qui implique le retour du père de Clem, évidemment on fonce.
Eh bien, on retrouve en tout cas cette nouvelle saison qui débarque ce soir sur TF1 à 21h10. Un rendez-vous à ne pas manquer, 2 épisodes inédits, et je suis sûr que vous allez être au rendez-vous. Je n'en doute pas, en tout cas, préparez vos mouchoirs. Merci Fabrice.
Merci beaucoup, merci à vous, au revoir.
Et on se quitte tout de suite avec un extrait.
Qu'est-ce que je fais là ?
T'as eu un accident. Ça fait 6 ans que t'es dans le coma, Clem.
Mais t'as tellement de trucs à me raconter, je suis sûre. Enfin, j'ai toute une vie à rattraper, là.
Oui, on va avoir un gros débrief.
Va vraiment falloir lever le pied. On se remet pas comme ça d'une longue période de coma.
Je pense qu'il faut lui laisser du temps.
C'est bizarre de t'avoir comme ça à côté de moi. J'ai l'impression de revenir des années en arrière.
Je sais même pas pourquoi je te parle, tu m'écoutes jamais.
Valentin, arrête.
Je te parlerai plus jamais.
Dis-toi qu'il y a quelque chose qui changera jamais. C'est qu'on t'aime tous.
Nouvelle saison, nouveaux enjeux. Clem est de retour, bientôt sur TF1.
Allez, on va parler de Crime Parfait qui va être diffusé cette semaine sur France 3. Et là, on est heureux bien de recevoir une partie de l'équipe qui est avec nous. Alors, le producteur des épisodes que vous allez voir, c'est Guillaume Renouille qui est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être là. Isabelle Gélinas aussi qui est avec nous. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Je suis très heureux de retrouver Isabelle, au-delà de Valérie Boulet, évidemment, dont je suis totalement fan, évidemment, mais je suis très heureux de vous retrouver. Et puis Arthur Mazet, qui est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Alors on va rappeler le principe, Guillaume, un petit peu des crimes parfaits, où dès le début, on sait qui a tué, mais évidemment, on va dénouer tout au long de l'enquête pour voir comment on arrive à démasquer ce vilain.
Non seulement on sait qui a tué, mais on voit comment il a tué et on voit comment il a tout mis en place pour essayer d'être un criminel parfait et d'être indétectable. Donc c'est un vrai jeu d'essayer de regarder les premières minutes de l'épisode en se disant où est la faille, où est-ce qu'Agnès, le personnage d'Isabelle et Thibaut vont pouvoir trouver la faille en le triturant dans tous les sens, quoi. Donc c'est une série ludique qui mêle de la comédie, de la déduction, du polar.
C'est un peu un Cluedo, quoi.
C'est un peu un Cluedo, ouais, c'est un peu un Cluedo. Donc c'est voilà, les gens adorent le polar et c'est vrai que la gymnastique inverse, qui est pas celle de qui a tué, mais comment on va coincer celui qui a tué, c'est assez sympa à faire et à regarder, je pense.
Le spectateur est le témoin et il est au courant de tout. Donc c'est pour lui, il a un temps d'avance sur nos deux personnages. Et donc je pense que c'est ça qui est aussi très plaisant pour lui.
Alors parlons d'Agnès, justement. Alors qui est Agnès ?
Alors Agnès Berthaud est donc une capitaine de police, altermondialiste, écolo, bigame, anticonformiste, anti-nouvelle technologie et très fine. Voilà, déjà c'est pas mal. Accompagnée de son jeune lieutenant, Thibaut Desmazières, parce que maintenant il a un nom,
ouais.
Arthur Mazet à ma droite ici présent, qui est le contraire d'Agnès, lui. Je te laisse en parler de
oui.
Ton personnage.
Alors Arthur, parlons de Thibaut.
Bah, Thibaut, c'est un jeune enquêteur en fait qui débarque de Paris et qui va se retrouver un peu à Marseille pour aider Agnès parce que elle a un rapport avec les nouvelles technologies et avec la voiture un peu spéciale. Donc du coup, dans les premiers épisodes, on voit que c'est un peu son stagiaire, c'est un peu son homme à tout faire. Mais elle l'a pas choisi pour rien et elle l'a choisi parce qu'il a un sens de l'observation qui lui permet aussi de l'aider dans ses enquêtes. Et puis au fur et à mesure des épisodes, en fait, Thibaut apprend de plus en plus de son capitaine et commence un petit peu aussi à amener son petit grain de sel dans les enquêtes, et parfois il tombe juste, et donc ça veut dire que ça fonctionne bien.
Alors, c'est deux enquêtes bouclées qu'on découvrira cette semaine. Généralement, les duos d'enquêteurs sont là pour deux enquêtes, c'est aussi le cas pour Isabelle et Arthur, ou est-ce qu'on les verra sur plus d'épisodes ?
En fait, c'est déjà la troisième et quatrième enquête pour le duo, parce que les deux premiers avaient été diffusés en décembre 2017. Et là, on est en plein tournage de deux nouveaux épisodes. Donc, on va retrouver Agnès et Thibault au moins pour quatre nouvelles enquêtes dans les mois qui viennent. Enfin, cette semaine, deux nouvelles, et puis deux nouvelles qui viendront un peu plus tard.
Alors, on a eu l'occasion, et là, je vais plus m'adresser au producteur, on a eu l'occasion de rencontrer Guillaume de Tonquédec il y a pas longtemps. C'est la question qui revient, je suis sûr, souvent, mais est-ce qu'on aura la chance de voir peut-être pour un rendez-vous ultime, ou une dixième saison événement, ou un film au cinéma, est-ce qu'on aura le plaisir de revoir les Boulets et les Lupiques un jour? Que ça soit sur le petit ou le grand écran.
On verra. En tout cas, on se l'interdit pas. Voilà, parce qu'on se voit régulièrement tous. On a gardé des contacts tous ensemble. Moi, j'ai un plaisir toujours à les retrouver. C'est vrai que chaque fois que je partage un moment avec Isabelle, Valérie, Guillaume, où je constate qu'on peut pas marcher dans la rue sans que les gens nous posent cette question-là de alors est-ce qu'il y en aura d'autres. Donc il y a un moment, nous cette série, on l'a fait vraiment dans un rapport avec le public où on était tellement content de leur faire plaisir et de sentir l'attachement à la série.
Surtout dommage de s'arrêter à 9.
Non, c'est pas un mauvais chiffre. Non, mais voilà, l'idée de se retrouver, on sait que le public parfois le réclame, nous on commence à l'évoquer, voilà. Après, très franchement, on voulait pas faire la saison de trop, c'est aussi pour ça qu'on s'est arrêté et que c'était une décision collégiale. Donc si on doit être amené à faire un bonus, on le fera parce qu'on en aura tous envie et qu'on aura surtout trouvé une putain de bonne idée qui justifiera de se retrouver. Voilà, c'est quelque chose qui doit être un peu incontournable et au niveau de l'ambiance et de l'idée qu'on trouvera. Donc
on rentre un petit peu dans le, après avoir parlé des personnages, rentrer un petit peu dans l'histoire de ces épisodes qu'on va voir. Justement, c'est un mort peut en cacher un autre. Alors ça, c'est une histoire à dormir debout qui nous attend là.
Oui, c'est une idée très tordue qui est sortie de la tête de Didier Le Pêcheur et de Delphine Labouret.
En fait, souvent les crimes parfaits sont des crimes qui sont un peu préparés à l'avance, justement pour qu'ils soient parfaits. Donc le criminel prémédite et prépare son crime. Là, c'est vraiment un crime d'opportunité. C'est-à-dire que le personnage joué par Patrick Catalifo travaille dans une banque. Il a un de ses adjoints qui menace de révéler des choses. Et en fait, cet adjoint, dans un espèce d'état de furie, traverse la rue devant la banque, est renversé par un camion et est emmené à l'hôpital dans un état entre la vie et la mort. Et en fait, le personnage de Patrick Catalifo, le personnage du banquier, tout à coup voit une fenêtre s'entrouvrir. Il se dit, voilà, j'ai l'opportunité d'indirectement tuer mon adjoint en tuant le chirurgien qui pourrait lui sauver la vie. Donc en fait, c'est pour ça que ça s'appelle un crime peut en cacher un autre. C'est-à-dire que c'est en tuant quelqu'un avec qui il a aucun lien qu'il va réussir à tuer celui qui menace quelque part de révéler un secret menaçant. Donc on est vraiment dans quelque chose de pas évident à déduire pour Agnès.
Isabelle, des projets pour 2019 aussi ?
Oui, moi j'ai un projet de théâtre, une pièce de Brigitte Buc qui s'appelle Les Sœurs Bien-Aimées avec Valérie Lemercier, qui devrait être normalement en janvier 2020, mais enfin on va commencer à répéter fin 2019. Et un projet de long métrage, mais qui n'est pas encore complètement signé, donc je n'en parle pas.
Bon, et Guillaume, au niveau production, alors mon petit doigt m'a dit qu'il y avait la relève de Fais pas ci, fais pas ça qui était en préparation.
Oui, votre petit doigt vous dit bien. Non, on est en train de préparer en effet une nouvelle série familiale pour France 2. Le casting, oui, on retrouve, il y a Fred Testo, Philippe Lefebvre.
Du beau monde.
Du beau monde, un super casting, il y a Jonathan Lambert. On a une autre série familiale qui va arriver sur M6 dans pas longtemps, qui s'appelle Le Grand Bazar, qui est une série sur une famille recomposée, mixte. Voilà, c'est deux pères. Il y a Greg Montel et Nelia Arzoun, qui chacun ont eu des enfants précédemment, d'unions précédentes, qui en fait commencent à vivre ensemble. Et la série commence quand Samia, le personnage joué par Nelia, accouche de leur premier enfant commun. Donc voilà, c'est une famille où ils ont un enfant en commun. Lui, il a déjà deux filles qu'il a eues avec Marie, sa précédente épouse. Et elle a un petit garçon qu'elle a eu avec Mohamed. Et voilà, c'est une série très joyeuse, très bordélique, écrite par Baya Kasmi et Michel Leclerc, et c'est quelque chose qui est très réussi, donc on attend la diffusion avec impatience, et voilà. Ouais.
Alors une autre série qui s'est arrêtée aussi, avec Un si grand soleil qui est arrivé, par au mode d'emploi, est-ce que c'est définitivement enterré, ou est-ce qu'on peut imaginer un jour un téléfilm, un retour, si Alix, Arnaud et les enfants, ou vraiment le sujet est un peu épuisé?
Ah, écoutez, sur Par en mode d'emploi, il pourrait y avoir un retour. Mais il pourrait y avoir un retour avec des nouvelles familles, en fait. On est en train d'en parler avec France 2, donc voilà, j'en dis pas beaucoup plus parce que c'est un peu dans ses balbutiements, on en parle. Mais voilà, il est possible que dans les mois qui viennent, on en reparle vraiment. Ouais.
On va suivre ça de bien près. Merci à tous les trois d'être passés nous voir. Nos amitiés à Fanny Rondeau, qui est aussi une fidèle de l'émission, et je sais qu'elle est arrivée chez vous, vous lui transmettrez eh bien, les bises de notre part. Merci Guillaume.
Ce sera fait.
Merci beaucoup Isabelle.
Merci beaucoup à vous.
Et merci bravo. Beaucoup Arthur.
Mais de rien, merci à vous.
Lucas, arrête. Ça fait un moment que j'essaye de comprendre ce que tu magouilles. Je te jure, j'ai essayé de me dire que c'était juste une manie, pas laquelle je pigeais rien, mais... Putain, Damien, c'est pourri. Tu te rends compte dans quelle merde tu t'es mis, là? Je comprends que tu t'énerves. Je voulais absolument pas te mouiller. Il y a peut-être une solution. Tu penses à quoi, là? Je sais qu'en ce moment, t'es dans une situation financière qui est pas très... Alors? Alors là, on va dire que j'ai rien entendu. Je bouffe pas de ce pain-là, Damien. Putain, je suis peut-être très con, mais je me fais une autre idée de ce boulot. Alors maintenant, si t'as des trucs à dire... Ben, tu les gardes pour les flics.
Et vous ne bougez pas à la suite de Chute en écoute la télé, c'est dans 3 minutes avec le crossover de Alice Nevers et section de recherche à l'honneur avec Gary Mileanu qui sera notre invité. Et puis on recevra également Yelem Japin et Pascal Lamani pour fêter ensemble la fin de la saison 7 de Candice Renoir. Alors à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
Radio Open FM 99, votre radio. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. Radio Open FM.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, nos coups de cœur télé cette semaine, eh bien, défilent toujours et jeudi, c'est l'événement sur TF1 avec le grand retour tant attendu d'Alice Nevers qui fait, eh bien, son arrivée pour une nouvelle saison inédite. Et alors là, c'est l'événement puisque, en plus, nous aurons le droit à un crossover avec la série Section de Recherche. Pour nous parler de tout ça, nous avons celui qui interprète Djibril dans la série, c'est Gary Mileanu qui est avec nous. Bonjour Gary.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Gary, arrivé depuis, allez, maintenant 3 ans dans la série, juste après le départ d'Ahmed Silla, le départ dramatique même, je dirais, d'Ahmed Silla. Quand on arrive dans une série comme ça, au long cours, un rôle récurrent, comment on fait pour faire sa place au sein d'une équipe, Gary?
Alors, au début, on la fait pas. Au début, on la fait pas. Au début, on observe, on regarde, on essaye de comprendre comment c'était, comment ça se passe. Et après, petit à petit, on prend ses marques. On essaye aussi d'imposer son style à soi et pas reproduire un truc qui était déjà par Ahmed ou par d'autres personnes qui étaient là avant. Et après, avec la bienveillance de l'équipe, de Jean-Michel, de Marine, on prend sa place tout doucement et on se sent hyper bien.
Est-ce que tu t'es rendu compte tout de suite, Gary, que Alice Nevers était une série suivie par beaucoup, beaucoup de fans, qui est toujours très attendue? Comment expliquer ça encore au bout de 15 saisons?
Alors, pour répondre dans l'ordre, je m'en rendais pas compte au début. Parce que t'arrives comme ça, tu passes le casting, t'es hyper content, t'es pris, tu rentres dans cet engrenage. Et en fait, c'est à la sortie de la première saison où j'ai vu mon compte Instagram et mon compte Facebook se remplir d'un coup. Et oh là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ces fans-là qui sont hyper prenants, hyper sympathiques et qui suivent depuis de nombreuses années. Et à mon avis, s'ils suivent aussi, c'est parce que la série, elle a su se réinventer. Parce que je crois qu'avant, elle a duré beaucoup plus longtemps. Après, ils sont passés en 56 minutes. Dans les sujets, il reste hyper actuel. Dans la façon de traiter les choses, il se réinvente à chaque fois. Et il laisse aussi une part, par exemple pour moi qui suis un jeune comédien, il me laisse ma façon de m'exprimer. Et il me bride pas avec des mots compliqués ou des vieux traits de personnage à l'ancienne, quoi.
Alors évidemment, le personnage de Djibril a ses petits secrets aussi, et notamment est amoureux transi hein, de Alice. Hein.
Ouais, il a ses petits secrets et il a un peu de lumière aussi. Hein.
Tout à fait, c'est vrai.
Il capte pas tout, il capte sans capter, moi, à chaque fois quand je le joue, je me replonge un peu dans mon enfance. J'aime me coller au regard d'enfant que j'avais et découvrir un peu la vie avec les yeux que j'avais quand j'avais 15 ans. Donc ça fait un mélange assez spécial.
Alors ce crossover qu'on va voir jeudi, c'est aussi un événement puisque c'est très rare que deux séries puissent se rencontrer puisque c'est des productions différentes, hein, pour être très honnête. Donc il y a eu le cas entre Joséphine Ange-Gardien et Camping Paradis. Et donc là, c'est le deuxième crossover événement de TF1. Donc là, ça va démarrer très fort avec la disparition hein, d'Alice Nevers, hein, carrément.
Carrément. Carrément. Et est-ce qu'on va la retrouver ou pas ?
Alors, en tout cas, on va faire appel à l'aide de Lucas Auriol et de Martin Bernier de la section de recherche pour venir en tout cas aider toute l'équipe à la retrouver.
Exactement. En plus, ça a été un gros coup de cœur de tourner avec eux, parce qu'ils sont sympathiques et être avec eux dans le sud, c'est vraiment une expérience un peu de vacances, quoi. Le soleil, les fins de tournage, c'était hyper sympa et hyper agréable et ils nous ont très très bien accueillis.
Ouais, justement, c'était ça ta rencontre avec Franck Sémonin et avec Xavier Deluc. Comment se sont passés ce mélange des deux séries en coulisses?
Alors moi, j'ai un peu plus tourné avec Franck. Donc ce qui a été drôle, c'est que on a un peu la même énergie sur le plateau. Moi, je suis très très énergique, très dans les chansons, dans la rigolade, etc. Et donc du coup, il avait un studio de musique dans le sud. Et on s'est mis à faire de la musique ensemble, on a rigolé. C'était vraiment une très très belle rencontre avec Franck. Avec Xavier, c'était aussi très sympa, mais comme je crois qu'il y a eu un peu moins de scènes, on s'est vu et c'était tout en respect, j'ai eu beaucoup d'admiration pour cet homme, donc j'étais un peu plus timide quoi devant lui.
Il faut dire que Franck n'est pas le dernier dans la déconne.
Voilà, c'est ça.
Pour le connaître un petit peu, il a été souvent notre invité dans notre émission, et c'est quand même un partenaire délicieux à tourner.
Ah, j'ai adoré, vraiment.
Quelle a été ta scène la plus marquante de cette nouvelle saison ?
Les scènes pour moi les plus dures souvent, c'est les trucs de scène de crime, parce qu'il y a beaucoup d'infos à donner et dans très peu d'espace.
Et donc t'es moins à l'aise avec ça ?
C'est pas que je suis moins à l'aise, mais c'est que comme il y a beaucoup de changements, le jour même par exemple, il y a des trucs qu'on reformule, des infos qu'on dit d'une autre façon, et comme moi je l'ai appris aussi d'une autre manière, là, réintégrer la distance courte, les pauses où on doit s'arrêter pour pas que ça soit trop non plus trop direct, bah toutes ces informations plus ça, et trouver quand même le naturel, c'est ce qui est un peu le plus dur pour moi quand je joue là-bas.
Souvenir de tournage avec Jean-Michel et Marine ?
Ah, quand on fait les cons dans les loges à raconter des conneries.
Bon, en tout cas, on va suivre, hein, évidemment, cette nouvelle saison avec impatience. Les fans sont impatients aussi. On la découvrira à 21h, donc jeudi, sur TF1. On ne la manque pas, bien évidemment. Merci à toi, Gary, d'avoir été avec nous.
Eh ben, merci à toi. Et je voulais aussi, vu que je suis là, remercier tous les fans qui suivent et tous les nouveaux venus. Parce que c'est grâce à vous que la série continue, et un énorme merci, vraiment du fond du cœur.
Et juste avant de partir, Gary, pour le coup, est-ce que ça te laisse le temps pour faire d'autres projets ? Est-ce qu'on te verra au cinéma, ou en télévision, ou au théâtre dans d'autres projets en 2019 ?
Alors, ça laisse peu de temps, parce que les castings sont un peu frileux quand tu tournes comme ça sur une longue distance. Donc il me reste quand on finit le tournage de mai à septembre. Et là, ce soir, je joue ma première de mon one-man show, au Théâtre du Gymnase à Paris.
Ah ben voilà, le rendez-vous est pris, donc il reste quelques places si on veut venir te rejoindre ?
Pour le 13, il reste plus de place, et après je vais être programmé normalement en juillet.
Très bien, ben on va suivre ça, puis peut-être en tournée après un petit peu partout en France.
Eh ben oui, j'espère.
Eh bien pour te suivre, voilà, vous pouvez y aller hein, sur les réseaux sociaux, Gary Mieleanu, évidemment, merci à toi Gary, la bise à ton papa qu'on avait eu le plaisir de croiser pour la source des femmes, qu'on embrasse évidemment ton papa Radou.
Eh ben moi aussi j'embrasse, s'il entend, s'il écoute, et sinon je le transmettrai.
À très vite, merci Gary.
À très vite, merci à toi.
It's made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew.
Et vendredi, eh bien, c'est notre dernier coup de cœur de cette semaine. C'est le final de Candice Renoir avec les deux derniers épisodes de la saison 7. Et pour fêter ça avec nous, eh bien, nous recevons le réalisateur Pascal Amani et Yelem Japin qui est justement là. Bonjour Yelem.
Bonjour.
Qui joue le rôle de Valentine. Et nous avons également le réalisateur de cette saison, Pascal Lamani. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, ILM. Donc le rôle de Valentine, pour ceux qui n'ont jamais vu Candice ou qui ne connaissent pas le personnage de Valentine, comment tu le définirais déjà toi, ILM ?
Alors, le personnage de Valentine, c'est une jeune fliquette très dévouée à son travail et à son équipe, qui s'assimile un peu à sa famille parce qu'elle n'a pas de famille. Et voilà, c'est une jeune fille assez sérieuse dans le travail, qui a quand même un très beau duo avec le personnage de Mehdi, joué par Ali Mariar, qui est vraiment un de ses très très bons amis, et voilà. Et puis, c'est un personnage qui est en construction amoureuse avec une autre jeune fille qui s'appelle Marion, et elles sont en train de prévoir plein de choses pour le futur. Voilà.
Pascal, alors, il y a plusieurs réalisateurs là, vous êtes deux donc sur cette saison. Comment on s'adapte quand on arrive sur une équipe comme ça, constituée, qui est déjà prête à faire feu, et que nous on arrive sur des épisodes, comment vous les préparez ?
On demande souvent aux gens de s'adapter, et c'est plus ça. C'est-à-dire qu'évidemment, on est dans un cadre très défini, qui est celui de la série. On a des personnages qui sont déjà très construits et qui ont leur spécificité, et on va pas aller contre ça. Et surtout, moi en particulier, j'aime beaucoup m'appuyer sur les comédiens. Donc, c'est-à-dire que je leur fais confiance totalement sur le rôle, sur leur rôle. Ce qu'on essaye d'apporter, c'est une petite touche personnelle, et cette touche personnelle, c'est généralement ce qui appartient à sa propre personnalité, à savoir, je ne sais pas ce que c'est pour moi, mais en tout cas, c'est...
Buffet campagnard, c'est ça, Yelem ?
Alors, deux touches personnelles de Pascal Lamani, c'est le plan, comment tu l'appelles ?
Le Pompidou. Non, mais parce qu'on a des petits, comme je travaille avec la même équipe depuis pas mal de temps, on a des terminologie précise pour certains plans qu'on a mis au point.
Alors, Pompidou.
Le plan Pompidou, c'est un plan qui franchit une porte. Ah non, ça c'est un plan Narta. Alors ça c'est autre chose. Le plan qui passe sous les aisselles, c'est un plan Narta. Et il allait me parler du buffet campagnard. Le buffet campagnard, c'est une fois qu'on a mis dans la boîte la séquence et qu'on sait qu'on a le matériau nécessaire pour pouvoir la monter. J'aime bien dire aux comédiens qu'à ce moment-là, ils sont totalement libres et que tout ce qui était un petit peu bloquant dans ce qu'on a fait jusqu'à cette prise-là, eh ben, qu'ils se lâchent et qu'ils se libèrent. Alors évidemment, il faut rester quand même à l'image, hein, donc il ne faut pas qu'ils courent n'importe où. Mais l'idée, c'est que d'un seul coup, ils sont libres. Ils sont beaucoup plus libres d'improviser, de faire quelque chose en plus, d'apporter quelque chose de plus. Il y a des comédiens qui adorent ça, parce que d'un seul coup, ça les libère, et parce qu'ils savent qu'on a ce qu'il faut avant, et d'un seul coup, ils disent, je peux proposer. Il y en a à qui ça marche pas, parce que c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Mais d'une manière générale, la prise qui s'appelle Buffet Campagnard, c'est celle qui est montée tout le temps, mais ça arrive que ce soit souvent celle qui est montée dans le film à la fin.
Anecdote sur ces deux épisodes, pour le coup, ou sur cette saison en globalité, Yelem ?
J'ai pas d'anecdote en particulier. Après, je vais dire quelque chose qu'on dit toujours sur cette série, mais Candice Renoir, c'est une ambiance absolument incroyable et beaucoup, beaucoup d'affection entre les gens. On tourne tous ensemble à 7, on se connaît très, très bien. Je parle pas seulement des comédiens, je parle aussi de l'équipe technique.
Et cette saison, ça crée des liens quand même, 7 ans.
Ouais, ça fait. Il y a beaucoup de techniciens qui sont là depuis 7 ans. Font peut-être pas toutes les sessions de tournage, mais qui reviennent. Enfin voilà. Donc c'est. Puis même avec les gens de la ville. Par exemple, il y a un décor qui est dans la série le café Vauban, et qui est aussi vraiment le café où on va boire des verres en fin de journée. Donc c'est vraiment très très familial, très amical. Mais voilà. En gros, globalement, j'ai pas d'anecdote en particulier, mais c'est juste beaucoup de rigolade et de plaisir et de bonheur. Voilà. Et beaucoup de bêtisiers aussi.
Bon, moi, ce que je trouve bizarre quand même, c'est que vous êtes à 7. Vous ne croisez jamais Chloé Delcourt.
Et là, il sait pas qui c'est.
Si, très régulièrement.
Non, parce que franchement, moi, je rêve. Alors, c'est dommage que c'est pas la même chaîne, évidemment, mais je rêverais d'un crossover entre Candice Renoir et le capitaine Saïd de Demain nous appartient.
Ah, ils sont pas loin. Le plateau est juste à côté, quoi. Nous, on n'a pas de plateau puisqu'on bouge pas mal, quoi, sauf le commissariat et d'autres. Mais effectivement, ils sont à côté. Mais alors là, pour ce qui est du crossover, ce n'est plus à nous qu'il faut s'adresser.
Ouais, c'est pas gagné. Mais bon, on sait jamais. Un jour, voilà, qui sait.
C'est un peu la même famille, Candice Renoir et Demain nous appartient, lointaine, on n'est pas sur la même chaîne et tout, mais il y a des connexions, donc je ne sais pas. Mais on les croise dans la vie, évidemment. Puis les techniciens de Candice Renoir font aussi du Demain nous appartient. Donc en fait, c'est tout ça d'une joyeuse famille.
Bon, en attendant que ça se fasse peut-être un jour à l'écran, on sait jamais, on peut toujours rêver. Eh bien, on va découvrir ces deux épisodes inédits que l'on découvrira vendredi à partir de 21h10, juste après Un si grand soleil, une autre série tournée aussi dans le sud, pas loin de Sète, à Montpellier. Donc voilà, on vous souhaite tout le bonheur pour la diffusion de ces deux épisodes et de l'audience. Vous êtes curieux des audiences, tous les deux, ou pas? Vous regardez le samedi matin?
Bah inévitablement, je dirais, parce que c'est important pour la suite. Voilà, c'est surtout ça. Et puis après, on aime bien savoir aussi si les gens ont bien aimé ce qu'on a fait. C'est quand même le plus important. C'est pour ça qu'on fait ça.
Yelem,
j'aimerais dire non, mais en vérité, oui, on regarde. De toute manière, quand on fait une série comme Candice Renoir, les audiences nous donnent un peu la chance de continuer ou pas. Bon, après, avec Candice Renoir, on a quand même beaucoup de chance sur ça. Donc, non, on regarde. On regarde pour voir si tout va bien. Et en général, tout va bien.
Eh bien, refaire et on va continuer. Est-ce que tout aille bien? En tout cas, on va vous aider là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Et on va se quitter tout de suite avec un petit extrait. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Écoute, Max.
Oui, quoi?
Je suis désolée, laisse-moi.
Désolée de quoi? Tu demandes ta mutation, tu m'en parles pas, t'en parles pas aux enfants?
Oui, mais j'allais en parler.
Mais quoi? Alors tu sais quoi, ce soir, pas un mot devant les enfants, on fait bonne figure, d'accord? On fait semblant. Ouais. Tu sais faire ça, non?
Coucou les enfants, ça va? Martin, ça va? T'as fait bon voyage? Ça s'est bien passé?
Bah écoute, on sait pas ce qui s'est passé, on est rentré et la statue était tombée.
C'est faux, c'est eux! Ils ont joué au tennis dans la maison!
N'importe quoi, ça balance!
Non, mais c'est vrai!
Tais-toi, en plus on avait dit, tu dirais rien! Carrément une grosse poucave.
C'est pas grave.
Quoi, c'est pas grave? Mais c'est quoi ces têtes cheloues là? On dirait le tirage du loto.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont des têtes bizarres.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est eux, ils ont pas senti le chien.
T'es morte après. Ouais, tu vas voir. Vraiment une grosse poucave.
Mais chien, comment tu vas faire à Paris?
Quoi Paris?
Ah ouais. Non, parce qu'elle s'en va. Elle vous a pas dit, mais elle s'en va. Elle a demandé sa mutation.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le grand plaisir de recevoir Lilian Renaud qui viendra nous parler de la sortie de son troisième album qui sort vendredi justement dans les bacs. Joséphine Jobert à l'affiche de la nouvelle saison de Meurtre au Paradis sera également notre invitée. Et Ambroise Michel également viendra nous parler de la toute nouvelle série de France 2 qui s'appelle Double Jeu. Des rendez-vous évidemment à ne pas manquer lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chute, on écoute la télé, la quotidienne sur Open FM à 13h10. Et puis bien sûr, rendez-vous dès lundi prochain pour la grande hebdo dès 17h. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec les tourtes Limousine. Spécialité élaborée en Limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confits de canard, cèpes ou gésier en vente partout dans vos grandes surfaces.